Voilà, on m'a demandé ce soir de vous parler de ce que l'on appelle le fils prodigue. On trouve ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et nous allons lire l'ensemble du chapitre parce que il convient toujours de replacer chaque texte dans son contexte pour en avoir une vue plus globale. Alors, nous lisons au verset 1er du chapitre 15 de Luc cette parole. « Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Celui-ci accueille les pêcheurs et il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins. Et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour des 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez-moi la plus belle robe. Mettez-la à lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le frère aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et moi jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?»« Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien se réjouir de s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » L'évangile de Luc est par excellence l'évangile de la joie. À plusieurs reprises, il nous est dit que partout où Jésus passait, il y avait de la joie. Il y avait de la joie parce que Jésus guérissait les malades, parce que Jésus accueillait justement les pécheurs, ceux qui étaient dans la difficulté, dans le besoin. Et nous avons ici 3 paraboles. 3 paraboles, 3 histoires que Jésus a racontées qui ont pour thème justement la joie. La joie de Dieu. La joie que Dieu a de pardonner aux pécheurs et de les rétablir. Voilà le thème essentiel de ces 3 paraboles. Ces 3 paraboles, plus exactement, sont introduites par cette réflexion que nous trouvons ici de la part de ces gens religieux qu'étaient les pharisiens. Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Et cela scandalisait ces gens bien pensants. Comment Jésus peut-il accueillir des gens de mauvaise vie? Et c'est pour répondre à cette objection que Jésus va donner ces trois paraboles. Trois paraboles où il est question de la joie, de ce que l'on avait perdu quelque chose de précieux et de ce que quelque chose de précieux qui avait été perdu a été retrouvé. Ça nous est tous arrivé, bien sûr, de perdre quelque chose de précieux, quelque chose auquel nous tenions, quelque chose qui était cher pour nous, que ce soit un objet ou quelque autre réalité. Et quand nous tenons à quelque chose qui a du prix à nos yeux, eh bien nous faisons tout notre possible pour le retrouver. Et aussi longtemps que nous ne l'avons pas retrouvé, il y a une tristesse. Mais quelle joie quand au bout du compte, nous retrouvons cet objet précieux que nous avions perdu. Et ces trois paraboles ont ce thème-là, toutes les trois. Et il y a une sorte de progression par rapport à ces trois paraboles. Je ne vais pas les prendre tout à fait dans l'ordre dans lequel Jésus l'a raconté, mais nous allons partir d'un objet matériel, une pièce d'argent, à un animal, une brebis, et à quelque chose qui est plus précieux évidemment encore, un fils, un être humain. Première de ces paraboles, non pas dans l'ordre chronologique dans lequel Jésus l'a raconté, mais dans l'ordre logique, je dirais, la parabole dite des 10 drachmes, des 10 pièces d'argent. Une femme qui avait 10 pièces d'argent, c'est pas tellement, elle avait 10 drachmes. Une drachme, à l'époque de Jésus, ça représentait à peu près l'équivalent d'une journée de travail, hein, le salaire d'une journée de travail. Donc elle avait en sa possession l'équivalent de 10 journées de travail. Oh, c'était pas quelque chose d'énorme, c'était pas une somme énorme. Mais pour cette femme, c'était beaucoup, parce que vraisemblablement, pour elle, elle était pauvre. Et pour elle, ces 10 drachmes représentaient toute sa fortune. Et voilà que peut-être en faisant son ménage, que sais-je, en manipulant cette somme d'argent, il y a une de ces drachmes qui disparaît. C'est des pièces de monnaie petites, n'est-ce pas? On en retrouve beaucoup dans les fouilles archéologiques aujourd'hui en Israël, de ces drachmes. On sait exactement à quoi ça ressemblait. C'est à peine plus grand que le boîtier de ma montre. C'est même plus petit. Alors on comprend que c'est facile de perdre cette drachme-là. Et certains pourraient dire, oh, mais c'est pas une catastrophe. Une drachme, c'est, il en reste 9 de toute manière. Mais c'est pas la peine qu'elle se mette en peine pour ça. Mais pour cette personne, cette drachme était précieuse. Parce qu'encore une fois, c'était toute sa fortune. Et même si d'autres auraient laissé tomber, si j'ose dire, en disant, bon, bah, c'est pas important, elle se met à retourner toute sa maison pour trouver justement la drachme qu'elle avait perdue. Et après avoir cherché, elle retrouve cette drachme. Quelle joie pour elle! Et alors elle invite toutes ses amies pour partager sa joie. Elle ne peut pas contenir sa joie pour elle-même. Elle veut faire partager sa joie à toutes ses amies. Peut-être que certaines de ses amies qui étaient plus fortunées qu'elle ont dû dire « Oh oui, mais enfin, il n'y avait pas de quoi faire un plat aussi important pour une pièce d'argent, une misérable pièce d'argent qu'elle a perdue. » Mais pour elle, encore une fois, c'était quelque chose de précieux. Et Jésus dit « Il en est ainsi du Seigneur. » Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu aime les pécheurs. Ça veut dire les gens qui vivent loin de lui, ceux qui vivent sans se soucier de lui, ceux qui vivent dans ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire sans se préoccuper des lois de Dieu, et qui, ce faisant, eh bien, sont dans un état de perdition. car celui qui vit dans le péché mourra dans le péché, nous dit la Bible. La colère de Dieu repose sur lui. Mais Dieu aime le pécheur. Pour lui, ce pécheur qui pourrait être considéré comme un vaurien, ce qui était le cas justement de ces pharisiens, de ces gens religieux, disait, mais ces pécheurs, ces publicains, ces prostituées, ces gens de mauvaise vie, mais ils ne valent rien. Ils ne valent même pas l'équivalent de cette drachme. Pourquoi faudrait-il se mettre en peine de ces gens-là? Et oui, justement, Dieu aime ces gens-là. Et Dieu remue ciel et terre, si j'ose dire, pour les retrouver. De la même manière que cette femme avait remué ciel et terre pour retrouver cette drachme qu'elle avait perdue, de la même manière, le Seigneur ne prend de repos que jusqu'à ce qu'il ait retrouvé ce qu'il avait perdu, parce que ce qu'il avait perdu, toi et moi, nous sommes précieux à ses yeux. Et lorsque il arrive qu'un pécheur revienne à lui, alors c'est la joie du Seigneur. Sa plus grande joie. Dieu n'a pas de plus grande joie, et c'est le thème de ces trois paraboles, Dieu n'a pas de plus grande joie que de pardonner au pécheur qui revient à lui. Et non seulement il a cette joie en lui-même, parce qu'il aime le pécheur, parce que le pécheur est quelqu'un d'infiniment précieux à ses yeux, mais il veut faire partager cette joie à tous ceux qui l'entourent, et notamment, nous allons le voir tout à l'heure, à ceux qui sont déjà dans son royaume. Ça, c'est la première des paraboles. La deuxième des paraboles, nous avons vu, c'était un objet inanimé, une pièce d'argent. La deuxième parabole nous parle d'un animal qui a été perdu, qui s'est égaré, une brebis. Un homme qui avait 100 brebis, et qui en perd une. Là aussi, on pourrait dire, bon, en perdre une sur 100, ce n'est pas une catastrophe. Il en reste 99 autres. Pourquoi cela devient-il une telle préoccupation pour ce berger? Une préoccupation qui va l'amener à abandonner les 99 brebis, excusez-moi, pour se mettre à la recherche de celle qu'il avait perdue. Pourquoi? Parce que cette brebis, il l'aime. Cette brebis, c'est pas seulement un animal qui a un rapport pour lui, mais c'est un être qu'il aime, et par conséquent qui est précieux à ses yeux. Et ce berger abandonne toutes les brebis qu'il a, qui sont en sécurité, et il se met à battre la campagne, aller par mont, par vaux, braver les dangers du désert, jusqu'à ce qu'il retrouve cette brebis. Oh, vous savez, d'après ce qu'on nous dit, les brebis sont des animaux particulièrement stupides. Et une brebis s'égare très très facilement. Et la parole de Dieu nous dit ceci, nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est pas très très flatteur. La parole de Dieu nous compare à des brebis, encore une fois, ça n'est pas quelque chose de très très positif, mais c'est la réalité. Il faut être stupide, il faut être fou pour abandonner le berger. Il faut être stupide, il faut être fou pour pécher. Il faut être stupide, il faut être fou pour abandonner les voies de Dieu. Et pourtant, c'est ce que chacun d'entre nous a fait, nous dit la Bible. Et chacun d'entre nous se trouve dans cette situation de cette brebis perdue. Et le Seigneur pourrait nous laisser aller. Mais justement, pour lui, nous sommes peut-être un parmi des milliers d'autres. Mais pour lui, nous sommes infiniment précieux à ses yeux. Tu es infiniment précieux à ses yeux. Et Dieu te cherche, comme il cherchait cette brebis, pour te sauver. Dieu te cherche comme si tu étais tout seul, comme si tu étais l'unique sur la terre, celui dont il se préoccupe, le seul dont il se préoccupe, parce que justement tu es en danger, parce que tu es perdu. et le Seigneur ne veut pas que tu sois perdu. Dans le désert de Juda, on peut voir encore le soir, même le matin, ces troupeaux de brebis qui vont chercher des pâturages. Et le désert de Juda est un désert extrêmement dangereux. Il est très facile de s'égarer. Une brebis qui quitte le troupeau est sûre d'aller directement à la mort. Et c'est très très difficile pour le berger de retrouver une brebis perdue parce que toutes les dunes se ressemblent. Et on ne sait pas exactement où est la brebis. Et qu'est-ce que fait le berger quand il a une brebis perdue? Il monte sur le sommet d'une colline et il appelle. Il appelle à la voix. Et la brebis, quand elle réalise qu'elle est perdue, elle doit revenir justement vers son berger. Et c'est aussi ce que le Seigneur fait. Il appelle. Il t'appelle cet après-midi. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu peux penser peut-être que tu es là par hasard parce que tel ou tel t'a invité. En fait, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui t'appelle, comme il appelle cette brebis. Mais la brebis doit répondre à cet appel du berger. Et il nous est dit, lorsque le berger a trouvé cette brebis, il la met sur son épaule et il la ramène. C'est un thème qui a été un des thèmes favoris de l'iconographie chrétienne. On trouve ça aussi déjà dans les catacombes à Rome, sur les tombes des premiers chrétiens. On voit cette image du berger qui porte sa brebis, qui l'aide à traverser cette vallée obscure de l'ombre de la mort pour la mettre en sécurité dans son royaume. Et lorsqu'il a ramené cette brebis chez lui, comme la femme dont nous parlait la parabole précédente, il est tellement heureux, il est tellement joyeux, il a retrouvé ce qui était précieux à ses yeux. Et cette brebis, cette seule brebis retrouvée, est presque plus importante à ses yeux que les 99 autres qui étaient en sécurité et qui n'étaient pas perdus. Et il invite aussi, comme la femme dont il était question précédemment, il invite tous ses amis à venir partager cette joie qui est la sienne. Car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est justement de cette joie de Dieu qu'il est question ici. La joie qui est la sienne quand un pécheur, tel une brebis, revient à lui. La troisième parabole va en crescendo encore. Là, il ne s'agit plus d'un objet inanimé, une pièce de monnaie. Il ne s'agit plus d'un animal, d'une brebis, mais il s'agit d'un fils. Le fils, évidemment, un être humain, c'est infiniment plus précieux qu'une brebis et c'est encore infiniment plus précieux qu'une pièce de monnaie. Et ce récit commence d'une façon tout à fait banale. Un père avait deux fils. Et un jour, un de ses deux fils, le plus jeune, décide de quitter le foyer paternel pour, comme on dit aujourd'hui, aller vivre sa vie. C'est tellement banal aujourd'hui. Tant de jeunes ont ce désir, ce souhait. Et là, nous voyons une différence entre ces deux garçons. Le plus âgé, lui, est resté très sagement chez le père. C'était un garçon très bien, pourrait-on dire. Et le deuxième, celui qui est parti, forcément, eh bien, on est tenté de dire, c'était un schnappant. En fait, il s'agit là aussi de ce qui est le sort de chacun. Chacun d'entre nous a, d'une manière ou d'une autre, été ou est un fils qui s'égare. Fils prodigue, c'est un mot de vieux français qui signifie tout simplement un fils qui s'égare. Il était question de la brebis égarée dans la parabole précédente. Nous trouvons ici non plus une brebis, mais un fils qui s'égare. Et voilà, tout commence bien. Il a beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de copains. Et il a la possibilité de faire la grande vie. Et il en profite. Et voyez-vous, tel est le mirage du péché. Avec le péché, avec l'adversaire, avec suivre la voie de l'adversaire, de Satan, ça commence toujours bien. Toujours. Parce qu'on n'appâte pas les gens avec disons, des choses négatives. C'est toujours des choses attirantes, attrayantes, clinquantes. Et pendant un temps, on peut penser qu'on a véritablement trouvé la bonne voie. Vivre sa vie, s'amuser, profiter de la vie. Et il l'a fait, ce garçon. Il l'a fait, même s'il y a 2000 ans qui le séparent des jeunes d'aujourd'hui. C'était finalement la même pensée, exactement la même réalité. Mais voilà, les choses ne durent pas toujours. Et au bout d'un temps, le péché réclame son salaire. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il nous est dit qu'un jour, l'argent vient à manquer dans la poche de ce garçon. Et il commence à se trouver dans la difficulté. Quand on n'a plus d'argent, les amis s'en vont. Nous avons chanté tout à l'heure, les amis peuvent nous abandonner parce que nous suivons le Seigneur, mais les amis peuvent nous abandonner quand nous sommes dans la difficulté. Et c'est là qu'on voit les véritables amis d'ailleurs, quand ils restent fidèles dans la difficulté. C'est très rare qu'il y ait des amis qui restent vos amis quand vous êtes dans la difficulté. Quand vous êtes dans la difficulté, ceux avec lesquels vous étiez proches ne vous connaissent plus et se détournent de vous. Et c'est particulièrement douloureux à vivre. Et c'est ce qui s'était passé pour ce jeune homme. Non seulement ses amis l'avaient abandonné, mais il n'avait plus de moyens de subsistance. Et lui qui vivait chez un père qui semble avoir été aisé, si l'on en croit ici la parabole, le voilà qu'il est obligé maintenant d'aller s'embaucher comme employé chez un homme qui, honte suprême pour un juif, l'envoie à s'occuper des cochons. Et voilà notre garçon qui, non seulement travaille dur, dans un travail humiliant et ingrat, pour apparemment un salaire de misère, puisqu'il nous est dit que les cochons étaient mieux nourris que lui. Quelle déchéance! Et soudain, ce garçon, nous est-il dit, rentre en lui-même. Ça veut dire qu'il commence à réfléchir sur son état, sur sa situation. Soudain, il revoit tout son itinéraire, depuis le moment où il a quitté son père, où il était dans des conditions idéales, et où il se retrouve maintenant dans une situation où il manque de l'élémentaire nécessaire, où il est humilié, où il est maltraité. Et soudain, il prend conscience de son erreur. Voyez-vous, un des propres de l'adversaire, c'est qu'il nous empêche de penser et de réfléchir. Et il faut souvent que nous arrivions au bout de nous-mêmes, au bout de nos moyens, au bout de nos ressources, pour que nous commencions à réfléchir. Mais d'une certaine manière, Dieu nous attend à ce tournant parfois. Dieu nous conduit dans cette situation où nous sommes au bout de nos ressources, au bout de nos moyens, comme on dit familièrement, au bout de notre rouleau, pour commencer justement à nous parler. Et au travers de cette réflexion que ce garçon va avoir, c'est la parole de Dieu qui retentit dans son cœur. Il ne le sait pas, mais c'est Dieu qui lui parle. Dieu parle d'une manière parfois qui nous déroute, sans même que nous le réalisions, et ce n'est qu'après coup que nous disons, bien c'était Dieu qui me parlait, c'était Dieu qui me cherchait. Et la réflexion qu'a ce garçon est celle-ci. Combien d'employés chez mon père sont mieux traités que moi? Moi je suis vraiment ici chez un homme qui est sans cœur. Il me traite pire qu'un chien. Et quand je pense au sort de ceux qui sont les employés de mon père est un homme bon, mon père est quelqu'un qui, au contraire de ce maître cruel au sein duquel, dans la maison duquel je me trouve, il traite ses ouvriers avec bonté, avec grâce. Et moi ici, je meurs de faim. Ah, si seulement je pouvais être un employé chez mon père. Et soudain, cette idée, pourquoi pas, après tout. Tout d'abord un regret. Ah, si au lieu d'être chez ce patron, j'étais chez mon père, comme un employé. Et puis il se dit, après tout, pourquoi pas? Je sais ce que j'ai perdu. Je sais que je ne pourrai plus jamais retrouver cette position qui était la mienne et que mon père a quelques raisons de m'en vouloir. Il a des bonnes raisons de m'en vouloir. Je me suis conduit d'une manière ignoble à son endroit. Je me suis conduit comme un misérable. Je le reconnais. Et je reconnais que mon père aura raison s'il refuse de me reconnaître comme son fils. Je suis plus digne d'être appelé son fils. Mais je lui demandais quand même une chose. Est-ce que tu veux me prendre à ton service pour que j'aie un petit quelque chose au moins à manger? Et alors il a cette parole qui évidemment n'est plus tellement ce que la manière dont on parle aujourd'hui, mais qui était la parole que l'on employait à cette période-là. Je me lèverai. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et voyez-vous, après ces réflexions, ce garçon va prendre une décision. Il y a trois choses qu'il a faites, ce garçon, quand il s'est trouvé au bout de lui-même. Il a réfléchi, il a décidé et il a agi. Et ça a été pour lui la voie du salut. Il a réfléchi. Et il a dit, combien d'employés chez mon père sont mieux traités que moi? Et deuxièmement, après cette réflexion, il a décidé. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et voilà ce que je lui dirai. Oh, cette décision n'a pas dû être une décision facile pour lui. C'était une décision certainement extrêmement humiliante. C'était... pour ce garçon orgueilleux qui était tellement sûr de lui, quand il a quitté son père, qu'il avait regardé certainement avec mépris, avec dédain, ce vieux bonhomme-là, n'est-ce pas? Et maintenant, moi, je vais réussir. Moi, je vais lui montrer ce dont je suis capable. C'était certainement les réflexions qui étaient les siennes quand il avait quitté son père quelques années plus tôt. Et maintenant, il va revenir... profondément humilié. Non, ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais il a compris que c'était pour lui une question de vie ou de mort que de prendre cette décision. Il y a parfois dans nos vies aussi des moments où il faut prendre des décisions difficiles, des décisions qui coûtent, des décisions qui sont humiliantes. Mais qui sont souvent ces décisions qui font la différence entre la vie et la mort. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Il a réfléchi, il a décidé et troisièmement, il a agi. On peut réfléchir, on peut décider, mais si la décision ne se traduit pas par des actes, ça ne sert à rien du tout. Et parfois, vous avez des gens qui décident, mais qui ne réalisent pas, qui n'agissent pas, qui ne concrétisent pas leur décision. Et cette décision, elle reste lettre morte. S'il avait pris cette décision et s'il était resté au milieu de ses cochons, il ne se serait pas sorti de ce mauvais pas. Mais il a été conséquent avec sa décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il s'est levé et il est allé vers son père. Et là, évidemment, il s'attendait à des reproches, à une remontrance sévère de la part de son père. Ah, te voilà, espèce de brigand, espèce de chenapan. Voilà ce qu'il s'attendait à entendre. Et voilà, il nous est dit, son père le vit de loin. Avant même qu'il arrive à proximité, son père le vit de loin. Et l'on peut penser que son père n'avait pas attendu un seul jour, n'avait pas passé un seul jour sans l'attendre, sans aller voir si ce fils ne revenait pas. Vous allez me dire, mais pourquoi le père n'est-il pas allé à sa recherche alors? Si vraiment il était tellement anxieux de retrouver ce fils qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, malgré justement sa faute, malgré sa grave attitude qu'il avait prise vis-à-vis de lui, pourquoi n'est-il pas allé à sa recherche? Parce que le père voulait respecter la liberté du fils. Le père, évidemment, il représente ici Dieu. Et le fils, eh bien, c'est toi, c'est moi. Et Dieu n'a cessé de nous aimer, de t'aimer, même si tu as vécu sans te préoccuper de lui, même si tu as vécu loin de ses voies, loin de ses lois, Dieu n'a cessé d'attendre ton retour, et tous les jours, parce qu'il t'aime, parce qu'il est comme ce père qui n'a pas pu se résoudre à la perte de son fils. Il ne cesse d'espérer qu'un jour, tu reviendras à lui. Alors pourquoi n'est-il pas allé à ta recherche? Encore une fois, parce qu'il laisse à chacun son entière liberté. Dieu ne contraint personne, mais il attend que chacun réalise sa situation et cette triple attitude que celle qu'a eue le Fils, une réflexion, une décision et une action. Et quand il voit le Fils qui revient, penaud bien sûr, il court vers lui. Là, il y a une démarche du Père qui va à sa rencontre, et au lieu de lui faire des reproches, il le prend dans ses bras. Et le fils commence le petit discours qu'il avait préparé. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le père ne le laisse pas terminer. Il dit « Non, non !» Il appelle ses serviteurs. « Amenez la plus belle robe. Revêtez-le de cette plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds et tuez le veau gras. » Ça, le fils a dû être très surpris. Comment ? Mais c'est pas ce que je mérite. Je mérite tout l'inverse de ça. Mais pourquoi le père agit-il de cette manière? Parce qu'il y a de la joie dans son cœur. La joie de ce qu'il avait perdu de plus précieux, son fils, soit enfin retrouvé. C'est sa plus grande joie. Et il n'est pas question pour lui de faire des reproches à ce fils. Il n'est pas question pour lui de lui demander des comptes. Il est question de le réintégrer dans sa dignité de fils, dont il n'est pas digne. Ça, c'est vrai, le père le sait aussi. Mais par amour, il accepte de le réintégrer dans sa condition de fils et d'aller au-delà de tout ce que le fils avait pu espérer de meilleur de la part de son père. Une grâce totalement imméritée, une grâce totalement inouïe. Et voyez-vous, telle est l'attitude de Dieu aussi envers le pécheur qui se repent. Dieu attend le retour volontaire de celui qui réalise qu'il s'est égaré, de celui qui réalise que finalement il n'a péché que contre Dieu et contre Dieu seul. Et lorsque nous réalisons cela, que nous ne sommes pas dignes du salut, nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu. Pourtant, Dieu nous accorde cette grâce et il nous réintroduit dans notre dignité de fils. Et c'est la fête. Il tue un veau gras, nous est-il dit. Un veau gras, à l'époque de Jésus, à l'époque de la Bible, c'était un animal très, très précieux, très cher. On ne mangeait de veau et de viande, d'ailleurs, qu'à des moments spéciaux. Ce n'était pas quelque chose que l'on mangeait couramment. C'était quand il y avait une grande occasion et un grand événement. En général, on mangeait une brebis, ça permettait de nourrir une trentaine de personnes à peu près. Avec un veau, on pouvait nourrir à peu près 80 personnes. 80 personnes, c'était à peu près l'équivalent d'un village moyen à l'époque de Jésus. Ça veut dire, en gros, qu'en tuant le veau gras, le père a invité tout le village à venir participer avec lui à sa joie. Tous les habitants du village sont venus. Et là, nous retrouvons la parole que nous avons lue au début de cette méditation. Cet homme mange avec les pécheurs et avec les gens de mauvaise vie. Il faut réaliser qu'à l'époque de Jésus, manger avec quelqu'un, ce n'était pas banal, comme c'est le cas aujourd'hui. Manger avec quelqu'un, ça voulait dire qu'on était réconcilié avec lui. C'était une coutume qui existe encore aujourd'hui chez les Bédouins. Quand deux individus ou deux tribus ont eu un problème entre elles et que ce problème a été réglé, pour sceller la réconciliation, on fait un repas de fête. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'étais allé enquêter chez des Bédouins pour notre revue. Et nous avions rendez-vous avec une certaine tribu bédouine, un cheikh bédouin, à un certain jour. Et quand nous sommes arrivés pour cet entretien avec ce cheikh bédouin, un de ses fils est venu nous dire « Écoutez, est-ce que ça vous dérangerait de revenir demain ? Parce que depuis que vous avez pris rendez-vous avec nous, nous avons eu un problème avec une tribu voisine et les anciens se sont rassemblés et maintenant on a résolu le problème et pour sceller la réconciliation entre nos deux tribus, on fait un grand repas. Alors c'est tellement important que si ça ne vous dérange pas, revenez demain. » Ah, on a dit « Bien sûr, pas de problème. » Alors, et vous, le repas mangé ensemble, c'est la réconciliation. Je pourrais vous prendre de très très nombreux exemples, n'est-ce pas, où il est question d'un repas de réconciliation. Pour ceux qui connaissent la Bible, quand Laban se réconcilie avec Jacob, il scelle cette réconciliation par un repas, par un festin. David nous dit ceci dans le psaume 23, qui est aussi un psaume où il est question du Seigneur qui est mon berger. Il dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Ça veut dire, tu me réconcilies avec mes adversaires. Tu permets que je mange avec mes adversaires. Ça veut dire que nous soyons réconciliés. Nous avons aussi cet exemple où Jésus a eu un problème avec Pierre. Quand Pierre l'a renié au moment de la croix. Et quand Jésus est ressuscité, Pierre est parti pêcher avec d'autres disciples. Et ils n'ont rien pris de la nuit. Et voilà, le matin, ils entendent quelqu'un qui leur dit « Jetez votre filet sur le côté droit, vous allez pêcher du poisson. » Et c'est une pêche miraculeuse. Et Pierre dit « Mais ça, c'est le Seigneur !» Et quand il arrive sur le rivage, il voit que Jésus a dressé une table avec du poisson grillé et il invite Pierre à manger. Et là, il va lui dire trois fois « Pierre, m'aimes-tu ?» autant de fois que Pierre l'a renié. Et ils vont manger ensemble. Ça veut dire, Jésus dit à Pierre, « Tu es réconcilié avec moi. » Et nous retrouvons cette idée ici, où nous voyons le Père qui dresse une table pour ce fils avec lequel il a eu des problèmes. Ce fils qui l'a renié, ce fils qui l'a trahi. C'est une manière de dire à tous ceux qui l'entourent, à tous les gens du village qui sont invités à ce festin, « Voyez, j'ai eu un problème avec mon fils et maintenant je lui ai pardonné. » C'est la joie du pardon. Dieu n'a pas de plus grande joie que de pardonner au pécheur qui revient à lui, au pécheur qui se repent. Et il accueille ce pécheur à sa table. Et la Bible nous dit qu'au dernier jour, ceux qui auront cru en lui seront à table avec lui dans son royaume pour un grand festin qui sera comme un festin de réconciliation avec le monde, avec ceux qui se sont repentis, qui ont été des pécheurs égarés, mais qui sont revenus à lui. Et avant de conclure, un dernier mot sur le fils aîné. Le fils aîné qui était un brave garçon, nous l'avons vu tout à l'heure, et il revient des champs, lui, et il entend de la musique, des danses. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe chez mon père ?» Et un de ses serviteurs lui dit, c'est ton père, c'est ton fils, frère aîné, son frère cadet qui est revenu. Et dans la joie qui est la sienne, ton père a tué le veau gras. Et le frère aîné se met en colère. Il dit, comment ? Il dit, moi je ne vais pas participer, moi je refuse de pardonner à mon frère. Je ne vais pas aller à table avec lui, je ne veux pas participer à ce destin parce que je ne veux pas pardonner à mon frère. Et le père vient vers lui, il dit, mais enfin mon enfant... « Oui, tu as tué le veau gras pour ce garçon, alors que moi qui t'ai servi fidèlement pendant tant d'années, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis, et quand ce vaurien-là est revenu, c'est pour lui que tu tues le veau gras. » Le père lui dit, « Mais enfin, mon enfant, est-ce qu'il ne fallait pas se réjouir ? Ton frère était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. » C'est ça la chose importante. La Bible ne nous dit pas, Jésus ne nous dit pas quel a été le dernier mot du fils aîné, peu importe. Mais voyez-vous, ces deux garçons sont l'image de deux types d'hommes. Celui qu'une ancienne liturgie appelait les pécheurs honnêtes et les pécheurs scandaleux. Le fils aîné, il représente les pécheurs honnêtes, si on peut mettre honnête entre guillemets. Ça veut dire ceux qui, humainement parlant, n'ont rien à se reprocher. Le fils cadet représente les pécheurs scandaleux. Ceux qui se sont mal conduits aux yeux de la société. Mais les deux fils sont coupables vis-à-vis du père. Le père a souffert à cause du fils cadet, et quand il retrouve son fils cadet, il souffre à cause de son frère et de son fils aîné qui refuse d'entrer dans sa joie, qui refuse d'entrer dans la réconciliation et dans le pardon. Et finalement, lui aussi est un pécheur, ce garçon. Et il représente ces gens religieux, ces pharisiens, qui disaient « Cet homme mange avec les pécheurs ». Ils étaient scandalisés. Et les uns et les autres, l'un comme l'autre plus exactement, ont besoin de repentance, ont besoin de reconnaître leur état de péché devant Dieu et ont besoin du pardon du Père. Mais le Père, si jamais le fils aîné s'est repenti, ce qu'on peut espérer, bien que le texte biblique ne nous le dise pas, a eu aussi autant de joie à pardonner au frère aîné qu'il a eu de joie de pardonner au frère cadet. Alors je conclue maintenant. Nous sommes tués ce soir, un de ces deux garçons. Ou bien tu es un pécheur honnête, comme le frère aîné, ou bien tu es un pécheur scandaleux, comme le fils cadet. Peu importe, Dieu le sait. Dieu te connaît. Dieu sait exactement où tu en es. Mais de la même manière qu'il y avait cette femme qui avait perdu cette drachme était précieuse à ses yeux, ce berger qui avait perdu sa brebis, ou ce père qui a perdu justement son fils, ses fils. Tu es pour lui précieux, tu es aux yeux de Dieu un être infiniment précieux. Précieux comme un fils l'est pour son père. Et c'est pourquoi il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu ailles à la mort éternelle loin de lui. Et il cherche à te sauver. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour te ramener à lui sans violer ta volonté, ta liberté. Il y a cet appel comme il y avait l'appel du berger. Il y a cette attente comme il y avait cette attente du Père. Il y a ce veau gras qui est prêt à être sacrifié. Et le Seigneur nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, la décision, elle est ta décision. Il y a trois attitudes, trois démarches à faire, je le disais tout à l'heure. Réfléchir, décider, agir. Et le chemin est le même que pour le Fils. Réfléchir. J'ai péché contre mon Père, contre Dieu. Je me lèverai, une décision. Je lui dirai, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et une troisième étape, accomplir cela. Venir vers lui, dire, Seigneur, j'ai péché. Et alors, il y aura ce soir de la joie dans le ciel, parmi les anges de Dieu, parmi les véritables enfants de Dieu. Parce qu'un pécheur, un seul, s'est détourné de sa mauvaise voie et est revenu dans la maison du Père. Je voudrais simplement terminer par un épisode vrai. Hier matin, nous avons reçu un coup de téléphone de notre fille qui est restée en Bretagne pour nous annoncer qu'un de ses neveux, âgé de 19 ans, venait de se tuer en voiture. C'était un garçon qui rentrait d'une réunion semblable à celle-ci, où il était allé préparer un programme pour les maisons de vieillards à l'occasion de Noël. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. En rentrant chez lui, à quelques 2 ou 3 kilomètres, pas plus, de l'endroit où il était allé à cette réunion, il a perdu le contrôle de sa voiture et on a retrouvé cette voiture dans le canal. Ses parents ne le voyaient pas rentrer et le père est sorti, il s'est mis à la recherche de son fils. Et en passant à côté du canal, il a vu une voiture qui était dans l'eau. Il a appelé les pompiers, il était trop tard, le fils était noyé. Voyez-vous, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Tu es peut-être jeune, en pleine santé. Tout va bien, et en un instant, tout peut basculer. Ce garçon connaissait le Seigneur, et nous pouvons être certains qu'il est maintenant dans ce royaume de Dieu, à cette table dressée pour lui. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas connu le Seigneur, s'il avait été loin de Dieu? Que se serait-il passé pour lui s'il avait été dans la situation de ce fils prodigue qui n'était pas revenu dans la maison du Père? Et voilà, ce garçon qui a perdu la vie de cette manière tragique, ça peut être toi, ça peut être moi. Peut-être ce soir, en reprenant la route, tu vas connaître cette situation de ce garçon, nous ne savons pas. Et qu'en sera-t-il de toi alors? Que deviendras-tu? Est-ce que tu rencontreras Dieu comme ce juge qui te dira « Mais pourquoi n'es-tu pas revenu à moi? Je t'avais donné cette occasion ce soir même et tu ne l'as pas saisie. » Ou bien alors, est-ce qu'il dira, comme il a dû certainement dire à ce garçon, en disant « Eh bien, c'est bien bon et fidèle serviteur. On va remettre aussi la plus belle robe, un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Et si bien sûr sur la terre parmi ses parents, il y a la tristesse de la séparation, eh bien il y a la joie dans le ciel. Parce que cette brebis qui était perdue est rentrée dans la maison du Père. Et si c'était toi ce soir, est-ce que cela serait aussi pour toi l'occasion de participer à ce repas de fête? Est-ce que les anges se réjouiraient? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils pleuraient sur toi? Parce que n'ayant pas répondu à l'appel de Dieu, tu irais vers la mort éternelle, vers la honte éternelle. Alors, le Seigneur veut pardonner. Encore une fois, il n'y a pas de plus grande joie pour Dieu que de pardonner. Et ce soir, il t'appelle. Il t'attend. Il s'attend à ce que tu fasses cette démarche. Et si tu le fais, il y aura de la joie dans le ciel à cause de ta repentance, de ton retour. Les anges de Dieu se réjouiront. Tu te réjouiras. Et tu te réjouiras un jour pour l'éternité quand viendra le temps pour toi d'entrer dans la gloire. Prions maintenant.